On va commencer dans Oukat par le problème très important, l'accusation qui est portée sur mon cher Abénou et sur Aaron. Il faut aller au chapitre 20, Passouk Yudvet, Passouk 12. Donc on est après même rivage, quand ce n'est pas nécessaire de répéter ça. Mon cher Abénou avait reçu l'ordre de parler au rocher et il a. Il n'a pas parlé, il a frappé le rocher. Parce que le rocher n'était pas à sa place habituelle. Et alors Hachem parle à Moshe dans ce chapitre, il parle à Moshe et à Aaron. Et il leur dit, Yann, Loemantembi, il leur dit, puisque vous ne m'avez pas fait confiance, l'Hagdisheni, pour me sanctifier, l'Einebne Israël, aux yeux d'Ebne Israël, la reine, pour cette raison, vous ne mènerez pas cette assemblée vers la terre que je leur donnerai. Et donc maintenant, on va qualifier l'endroit et les éléments. On va dire que Emma Memriva, ces eaux-là, qui ont fait l'objet de toute cette histoire, sont appelés Meriva, les eaux de la dispute. Asher Ravou bnei Israël et Hachem. Meriva, dispute. Asher Ravou, on va dire Tinek, que les bnei Israël ont disputé Hachem, c'est le même mot. Vaikadesh Bam. Et Akadesh Baruch Hu a été sanctifié par ces eaux-là. Des mots très très durs. Et puis des choses un peu compliquées. En quoi est-ce qu'Hachem a été sanctifié par ces eaux-là? Quelle sanctification y a-t-il eu?
Contradictoire avec le verset précédent où on dit qu'il n'a pas été sanctifié.
Pardon?
Est-ce que le verset 13 n'est pas en contradiction avec le précédent où on dit que Hachem n'a pas été sanctifié?
Oui, c'est marqué.
Donc
Oui.
il n'a pas été sanctifié. Hachem reproche à Moshe, il n'a pas été sanctifié.
Oui, mais
Et après, on dit
reproche à Moshe. Vous ne m'avez pas sanctifié aux yeux d'Ebné Israël, et Akadosh Baruch Hu a été sanctifié par les eaux. Bam! Donc c'est une autre sanctification. Ce sont les eaux qui ont fait. Ce qui s'est passé avec les eaux, semble-t-il. Ah, bam! C'est un peu compliqué. Parce que bam, on ne sait pas très bien à quoi ça fait référence, a priori, d'après la grammaire pure, ça fait référence aux eaux. Mais c'est un pluriel, maïm c'est un pluriel, et bam ça veut dire par elle, par les eaux. Ce qu'ils ont traduit d'ailleurs, il fut sanctifié par elle.
Donc, sauf qu'il a été sanctifié, Hachem.
Il a été sanctifié,
Par
mais
les
pas par
autres.
vous, pas par eux. Pas par Moïse. Alors, avant de voir ce que nous, on pourrait dire directement, on va regarder ce que Ravolver a dit là-dessus. En fait, Ravolvé, a priori, ici, il ne parle pas du tout de la sanctification par les eaux. C'est-à-dire qu'en fait, il ne parle pas de ce fameux verset numéro 13 dont vous parliez. Mais bon, on va voir ce qu'il dit là. Et moi, je crois qu'on va faire le contraire. On va d'abord regarder un peu ce que dit Rashi avant de regarder. Qu'est-ce que dit Rashi là-dessus? Rashi dit sur Yann Loemantim. Yann Loemantim. Gila Katouv, le verset nous a dévoilé ici, Cheloulé Chetze Bilvad. S'il n'y avait pas eu cette faute-là, Ayun Nirnasim Laaretz, il serait entré, qui serait entré? Avram et
Moshe, hein.
Moshe Aaron serait entré en Eretz Israël. Pourquoi il serait entré? Chez Loyomru Aleihem, qu'avant Char, Doramidbar, chez Nixar Aleihem, chez Loïkansularetz, Kachaya Avon Moshe Vaharon. Et finalement, c'est ça, là, il y a eu la faute de Moshe et d'Aaron. Et ils sont aussi, eux aussi sont fautifs. C'est-à-dire, pardon?
D'avoir cassé le
Non, non, pour l'instant, on dit, sans la faute, oui, ils ont fait une faute d'avoir frappé au lieu de l'avoir parlé. Mais sans ça, ils seraient entrés en Eretz Israël. Pourquoi est-ce qu'ils seraient entrés? Parce que s'ils n'étaient pas entrés, comme les hommes ne sont pas entrés en Eretz Israël, puisqu'ils sont tous morts, les hommes de plus de 20 ans au moment de la sortie d'Égypte, etc. Et donc, on aurait dit que Moshe Aaron, s'ils n'entrent pas en Eretz, ben c'est comme tout le monde. Ils ont le même, ils ont fait les mêmes fautes que tout le monde. Et donc, pour ça, pas pour autre chose, pour ça, ils seraient entrés en Eretz Israël. Bien qu'Hachem avait dit à Moshe, tu n'entreras pas, ils seraient entrés pour éviter qu'on dise qu'ils ont fait la même faute que ce que tout le monde a fait. Ah, c'est ce que dit le Sifri. C'est quoi? C'est quand Moshe Aaron a dit Allô, Tson ou Bakar, Ishachet, caché Mizou. Alors, le problème, c'est que la faute de Moshe Rabbeinu, quand il dit Est-ce que tu me demandes est-ce que je pourrais, quand ils ont demandé de la viande, ils seraient demandé de la viande. Moshe a dit, quoi? Il a dit, Allô, Hatson ou Bakar, Ishachet, qu'est-ce qu'il y a? Comment tu veux? Je ne vais quand même pas tuer tous les animaux pour leur donner de la viande. Ça, c'est une faute qu'il a faite par rapport à Hachem. Il aurait dû dire, Hachem, bon, ils veulent de la viande, donne-leur de la viande. C'est pas toi qui vas faire la shrita. C'est un peu énervé, mon cher. Et là, alors pourquoi est-ce que sur cette faute-là, qui était a priori beaucoup plus grave que celle de frapper le parler. Bon, ça se fait qu'il n'a pas été sanctionné. Il est sanctionné sur celle-là et pas sur celle-là de la viande. Parce que, comme la faute en question sur la viande, ce sont des paroles que Moshe Rabbeinu a prononcées en privé avec Hachem. Donc, ce n'est pas une faute publique. Il n'a rien fait publiquement, personne n'a su que Moshe a discuté comme ça avec Hachem. Quand, en Mahamad Kol Israël, il y avait, tout Israël était là. Lo chasach alav vakatuv mipnei kiddush Hashem. Il y avait un kiddush Hashem à faire et vous ne l'avez pas fait. Là, le basouk ne les rate pas, quoi. Je ne fais pas de cadeau là-dessus, vous allez payer. Alors, comme il dit, vous ne m'avez pas sanctifié. Qu'Hachem voulait? Chez Ilou, dit Barthem, elle a celle-là. Si vous aviez parlé au rocher et que le rocher ait donné de l'eau, Haïti me kudash l'aîné Haïda. J'aurais été sanctifié aux yeux de tout le monde. On aurait vu que la parole de Moshe, quand elle est prescrite par Hachem, regarde la parole de cette, la puissance de cette parole, elle a comme conséquence que le rocher va donner de l'eau. Un rocher, ça ne donne pas de l'eau normalement. Et on aurait dit, Ma c'est lazé, chez nos médabers, veno makom. Pour ce rocher qui n'a besoin de rien, qui ne parle pas, etc., qui fait ce qu'Hachem lui dit. Kal vachomer à nous. Genre, on aurait dû se faire un kal vachomer, nous, qui avons besoin qu'Hachem nous donne, etc., plus forte raison qu'on doit faire la volonté d'Hachem. Et c'est ça, l'acte d'Hicheni. J'aurais été sanctifié parce que les Bnei Israël aurait fait ce genre de raisonnement, le fameux kal vachomer.
Alors, j'ai une question.
Pardon?
Moshe, il a parlé au rocher. Le rocher n'aurait pas produit de l'eau tout de suite.
Non, ce rocher s'est trompé de rocher.
Ah. Mais il a quand même passé le bon rocher. Il a
Alors,
passé le rocher.
quand Moshe il frappe un rocher, le rocher il obéit. Ou n'importe quel rocher.
Donc il y avait un piège alors.
Ah non?
Il y avait un piège côté Moshé, parce que le Moshé n'était pas. Il
Rocher n'était pas. Oui, il y avait une
y a un problème.
difficulté.
Voilà.
La reine, l'Otaviou. Cette raison, vous n'amènerez pas les Bnei Israël dans la terre d'Israël. Le choix. C'est comme si Hachem jurait, je jure que vous ne, je m'engage donc à ce que vous ne n'entriez pas. Et pourquoi est-ce qu'il a juré? Parce que il voulait pouvoir résister à la prière. Il sait que Moshe va prier pour entrer. Et il veut résister, alors il dit, je me suis bloqué en disant, j'ai juré, je ne peux pas revenir en arrière. Hema ces eaux-là sont les eaux de la discorde. Hema nizkarim bemakomacher, elles sont citées ailleurs comme telles. Et elu raou aistagnine paro. Chez Moshian, chez l'Israël, loqué Bamaï. Le kach gazrou, kolaben aïloud, aïerot achlikou. Et là, Rashi dit, c'est visiblement un chazal sur lequel il s'appuie ici. Il y a aussi une Gemara qui dit là, ça aussi, c'est étrange. Ils disent que les, pour revenir, en Égypte, Pourquoi tout à coup on a décidé, Pharaon a décidé qu'il allait noyer tous les petits garçons? Parce que en astrologie, les astrologues de Pharaon lui ont dit le sauveteur d'Ibn Israël est en train de naître, et c'est quelqu'un dont la faiblesse est l'eau. Alors, ils ont dessiné, bon, ben alors, dans ce cas-là, on va noyer tous les petits enfants qui vont naître maintenant, donc on est sûr, on aura noyé aussi l'éventuel sauveteur d'Ibn Israël. Et de quelles eaux, que ça veut dire qu'il est sensible à l'eau, il va être. Sa faiblesse, c'est ça. C'est de ces eaux-là qu'on parle.
Et d'un côté, il a été sauvé par les eaux aussi, à sa naissance. Oui.
Oui. Ça, ils ne l'ont pas vu. Ils l'avaient vu. Vaikadesh Bam, Akadosh Baruch Hu a été sanctifié par eux, cette fois-ci par Moshe et Aaron. Comment? Dans le fait qu'ils vont mourir. La sanctification d'Hachem, Shemetu Moshe et Aaron, Aliadam, à cause de ces eaux-là. Quand Hachem juge les gens des personnalités saintes par rapport à lui, Moshe, Aaron. Alors, Hirou, les gens vont voir, Mitkadesh à la briotte. Et donc, ça, les créatures, les autres gens vont être impressionnés. Renou Omer, Nora Elohim, Mimim. Effectivement, il y a une phrase dans Tehilim qui dit, Elohim est terrible par rapport aux gens Kedoshim autour de lui. Il les tue, oui. Et c'est ce qu'en fait, Hachem avait dit à Moshe, Vikravai et Kadesh, par mes proches, envers mes proches, je serai sanctifié. Ça, c'est une phrase que Moshe a dite à son frère Aaron quand Nadab et Abihu sont morts. Alors Moshe a dit, Hachem m'avait dit que je serais sanctifié par mes proches. Je croyais que c'était nous les proches d'Hachem. Je pensais que nous allions mourir. Et je vois que eux qui sont morts à ce moment-là, l'inauguration du Mishkan, eux étaient plus proches d'Hachem que moi, puisque nous. Puisque Hachem a dit, ceux qui me sont les plus sacrés, enfin saints plutôt, plus kadosh, et qui est-ce qui est mort? C'est pas nous, c'est pas Moshe Aaron, c'est Nadav et Abihu. Donc il dit à son frère, il dit, ces deux-là étaient plus grands que nous, plus proches, plus proches en Kedusha d'Hachem que nous-mêmes. Alors, en son temps, on a peut-être déjà parlé un peu de ça. Mais ici, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Ah, Hachem n'avait pas annoncé que il allait être sanctifié, mais il avait donné l'ordre. Et c'était un ordre qui ne parlait pas de. Hachem avait dit à Moshe, Kach et Amaté, prends le bâton, rassemble toute la communauté, toi et Aaron, ton frère, et vous allez parler au rocher, aux yeux de toute la communauté, et il donnera ses eaux, et vous allez tirer de l'eau de ce rocher, et vous allez abreuver toute la collectivité, toute l'assemblée, et aussi tous leurs animaux. n'y a pas de dîne, vous allez me sanctifier. C'est un ordre comme il a donné d'autres ordres, Hachem a donné d'autres ordres. Et là, il fallait comprendre qu'il y avait un problème de sanctification. Moshe et Aaron n'ont pas compris, disons en tout cas qu'il y avait un problème de le sanctifier, parce que finalement, ce miracle, est-ce qu'il est tellement plus important que d'autres miracles que Hachem a déjà fait pour les Bnei Israël et qu'il fait en permanence? Pourquoi penser que celui-là, il avait cette dimension de cette capacité de sanctifier Hachem? C'est compliqué, bon, c'est difficile d'entendre qu'est-ce qui se passe là. Alors avant d'aller plus loin, on va lire ce que dit Rabbi.
Est-ce que l'eau soit témoin? Les cailloux, même cassés, ça ne nous sanctifie pas? L'eau, ce n'est pas censé être les cailloux, même cassés.
Voilà, c'est une bonne question. Je la repose après.
Okay.
Donc Myriam avait disparu. C'est grâce à Myriam qu'ils avaient de l'eau. Donc les Bnei Israël, ils ont perdu leur source d'eau. Cette eau de Myriam qui était une eau qui venait d'un rocher. Il y avait un petit rocher qui est censé, qui accompagnait les Bnei Israël et qui donnait de l'eau par le mérite de Myriam. Comme ça que les Bnei Israël avaient, il y avait un rocher qui est préposé à donner de l'eau. Ça a marché 40 ans et maintenant, à la mort de Myriam, ça ne marche plus, évidemment. La Torah nous dit ici, comme ça que Rachid l'entend, que voilà, Moshe a fait une faute, mais sans cette faute-là, il serait entré en Eretz Israël. Rachid dit pourquoi, c'est un peu dérangeant ce qu'il dit, mais pour l'instant, on ne va pas parler de ça. Donc la Torah, elle nous dit que cette petite infraction, Hachem avait dit, il parle, il a, ça n'avait pas marché, alors il a frappé, est la seule raison pour laquelle il n'entre pas. C'est-à-dire que, a priori, on comprend que c'est vrai que la punition n'est pas tellement tragique, finalement, mais quand on y regarde un peu plus près, avec toutes ces ramifications, on va comprendre combien c'est catastrophique. Chazal disent que si Moshe était entré en Eretz Israël, il aurait construit le Beth Amikdash. Et étant donné que ce que Moshe avait nous construit est éternel, le Beth Amikdash en question n'aurait pas été destructible. Donc ça a été définitif. Si on a médecin, on met ça dans la tête, on peut commencer à comprendre l'ampleur des actions des Avot. Quand Avraham Avinu a fait entrer les trois anges qui étaient déguisés en arabes, il les a servis lui-même, alors que pour leur donner de l'eau, il a donné un ordre à quelqu'un. Amène de l'eau, amène de l'eau. Le reste, il l'a fait lui-même. Rashi, qui cite la Gemara dans Bava Metzia, il dit que Hachem a récompensé Avraham Avinu durant, donc, sous la forme de la récompense à ses descendants, durant toute la traversée du désert, durant les 40 ans, exactement comme Abraham l'a fait. La manne, elle leur a été donnée directement par Hachem. Elle est tombée du ciel quotidiennement. Par contre, l'eau, elle n'est pas arrivée directement. Elle est arrivée à travers un rocher. Pourquoi? Parce qu'Abraham, l'eau, il l'a fait servir par un intermédiaire. Donc, Hachem a servi les descendants d'Abraham sur le plan de l'eau par l'intermédiaire du rocher. Il a servi lui-même le pain à manger, etc. La manne, il la reçoit directement. Si Abraham Avinu avait lui-même apporté de l'eau à ses hôtes, Hachem aurait donné de l'eau directement du ciel au Bnei Israël. Comme il l'a fait pour la manne, il aurait envoyé de l'eau. Donc il n'y aurait pas eu de rocher, il n'y aurait pas eu la possibilité de fauter pour manger. Moshé s'est rentré en Eretz Israël, il a construit le Bétamigdash définitif, l'histoire était terminée. C'est un peu bouleversant en réalité qu'une petite non-action, il n'a pas fait d'avéra Abraham Avinu. Il a veillé à ce qu'ils aient de l'eau. Et comme il était occupé à faire autre chose, il l'a dit à quelqu'un, amène-leur de l'eau. En plus, celui auquel il a donné l'ordre d'amener l'eau, c'est un esclave, c'est quelqu'un qui n'agissait pas par lui-même, il agissait sur l'ordre de son maître. Ça veut dire que ça ressemble à des graines. Les actions représentent semblent des graines qui sont semées et qui vont produire au cours des années de tribulation des Bnei Israël dans le désert, elles vont donner les fruits. Ces graines vont donner ce qu'elles sont capables de donner. Mais c'est vrai que nous, on n'est pas les avots. Mais malgré tout, nos actions, elles sont quand même de la qualité, parce que c'est des actions humaines, prescrites par Hachem. Donc c'est la qualité, elles ont la qualité graine. Nos actions sont des graines. Chaque mitzvah, c'est une graine qui est plantée dans ce monde, qui finalement va fleurir, va donner des fruits, etc., ou va donner des graines, d'autres graines. A priori, essentiellement dans l'amaba. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de meilleur investissement que de faire une mitzvah avec un sourire, en mettant un peu plus de kavana dans une fila ou étudier une minute supplémentaire. Puisque les plus petites actions, les petites nuances, en fait, ont des ramifications tellement extraordinaires. Alors maintenant, Moshe Rabbeinu, effectivement, il a frappé le rocher au lieu de lui parler. Et il a été sanctionné pour ça, il était puni. Hachi a dit quelle leçon nous aurions tirée de l'obéissance du rocher à la parole de Moshe. Il aurait fait le kal vachomer si lui, il obéit à nous, à plus forte raison. Donc pourquoi est-il fondamental que les Bnei Israël, justement, soient témoins de ce miracle en particulier. Il vivait quotidiennement sous la nanay Kavod. Il était nourri par la manne, tombée du ciel. Il vivait à une vie dans laquelle des miracles, il y en avait toutes les secondes. Qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire dans ce miracle du rocher que ça donne un Kiddush Hashem? La plupart des gens sont complètement hors jeu en quelque sorte. Pour tout ce qui se joue à l'intérieur de leurs âmes, dans leur pnimiut, dans leur intériorité. La plupart, si ce n'est tout le monde, pense que presque toute notre connaissance, tout notre savoir n'a aucun effet sur notre monde intérieur. On peut savoir que quelque chose est vrai. On peut même l'enseigner à des grandes assemblées. Et en fait, on n'a pas du tout intériorisé la chose. Parce que cette chose-là n'a aucun effet dans leur vie. Le langage qui transporte au mieux le message, c'est ce que les Moussa appellent itpa'alut. C'est-à-dire être intensément stimulé. Itpa'alut, c'est une compréhension, une réalisation d'une vérité qui entre dans des couches très profondes de subconscient, etc., et qui touche nos cordes les plus intérieures, vibrer les cordes les plus intérieures. Et donc, c'est une des façons les plus efficaces de changer de voie, c'est-à-dire de faire autrement les choses que ce qu'on faisait jusqu'alors. Ce chidouche-là, il est attribué à Rabbi Israël Salanter. Ce chidouche, ce n'est pas qu'il faut étudier le Moussa. Ça, toutes les générations le savaient déjà. Il a introduit dans le Moussa cette notion de Hitpaalout. De sorte que quelqu'un qui lit, qui étudie cette manière-là, il est stimulé par la vérité de ce qu'il étudie. Donc l'étude de Moussa, c'est une façon, enfin, si on l'étudie de cette façon-là, plutôt telle que, alors, on va pouvoir pénétrer plus profondément. C'est-à-dire se rendre mieux compte que nos connaissances vont avoir un effet sur nous. C'est la raison pour laquelle, en fait, dit-il, Le miracle du rocher était tellement important. Ça aurait obligé les Bnei Israël à comprendre quelque chose qui allait les bouleverser intérieurement. Un rocher qui écoute la parole d'Hachem oblige un homme à agir. C'est au moins une stimulation. Il va le faire ou pas, mais au moins normalement, il y a une impulsion. Voilà, je peux pas être témoin de cela et continuer au point suivant de l'ordre du jour. Pas possible. En réalité, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, devrait être intégré dans nos vies, en fait, et devrait modifier notre avodat Hashem. Ça devrait l'orienter différemment. Ça, concrètement, ce qui est vraiment ce qu'on peut faire dans cette direction, c'est étudier le Moussa avec ce titre Pa'alut.
Dans le rôle de la connaissance qui touche notre culture minute, mais de quel type de connaissance il parle de quel type de connaissance il parle.
Toutes les connaissances, c'est-à-dire comme ici la connaissance de une information, ils ont eu cette information, un rocher qui obéit, il en fait quelque chose. On peut regarder le monde et regarder comment fonctionne le monde. Or, ce monde qui obéit à Elohim, en fait, qui est gouverné par Elohim, c'est-à-dire il obéit au Elohim, c'est la gematria de Ateva, les lois de la nature. Les lois de la nature, c'est une façon de gouverner le monde par Hachem. Et donc, quand on regarde la perfection, c'est un peu ce que Einstein disait, quoi. La perfection et la beauté de cette harmonie qu'il y a dans le monde, c'est archi impressionnant. Mais nous, on le regarde et on passe au point suivant de l'ordre du jour. C'est le problème.
Donc, même les choses qui nous paraissent naturelles, quotidiennes, là.
Compris? Si on les regarde d'un peu plus près, on s'aperçoit qu'elles sont en général loin d'être évidentes. On va regarder un peu quelque chose, quelques psukim plus loin. Verset 17. Les Bnei Israël ont demandé, en chemin, on est obligé de traverser n'importe lequel des pays, peu importe. À chaque fois, on leur demande que laissez-nous passer, on va payer éventuellement ça vous coûte de l'argent, si vous perdez quelque chose, etc. On va payer, mais laissez-nous passer, laissez-nous traverser votre pays. demande. Évidemment, on peut pas. On aurait pu faire la guerre et traverser avec la guerre. Mais on voulait éviter la guerre, justement. Alors, on a précisé comment on allait boire l'eau, etc. Tout. Évidemment, ils n'ont pas voulu laisser passer en général. Donc les Bnei Israël sont en train d'arriver en Eretz Israël. Et Moshe envoie des messagers au roi d'Édom. Édom, c'est Ésav. Et il lui demande la permission de passer à travers son pays pour accéder à Eretz Israël. Évidemment, le roi refuse. Et donc les Bnei Israël vont devoir contourner le pays en question au lieu d'aller directement. Tout de suite après, la Torah dit que dans les versets 23, 24, regardez, Vayomer Hashem el Moshe el Aaron le Ra'ar. Al-Gvoul, c'est sur la limite frontière Eretz-Edom, a dit Yasef Aaron El Amav. Hachem dit, voilà, Aaron va disparaître, il va mourir, parce que il ne va pas rentrer en Eretz Israël. Il ne va pas rentrer dans cette terre que j'ai donnée au Bnei Israël. Parce que à la chair méritait, et on resserre, parce que vous êtes révoltés contre moi, en fait. Vous avez désobéi à ma voix, à même Riva. Alors prends Aaron et Lazare, son fils, montez hors Ahar, et Aaron va se dépouiller de ses habits de Kohen Gadol et il va les donner à son fils Élazar. Et ensuite, Aaron va être attaché à ses ancêtres, il va mourir là-bas. Moshe fait tout ce qu'Hachem lui a ordonné. Il monte sur la montagne aux yeux de tout le monde. Moshe déshabille Aaron. Il habille Élazar et Aaron meurt. Moshe descend avec Élazar, il redescend avec Élazar, qui est le nouveau grand prêtre, le nouveau Kohen Gadol. Vayirou kol ha'eda, toute l'assemblée a vu que Aaron était mort. Ils ont pleuré à Aaron 30 jours. Toute la maison d'Israël a pleuré à Aaron 30 jours. Rashi explique pourquoi la Torah nous dit que cette conversation de Hachem avec Moshe, Aaron et Lazare, elle nous est rapportée juste quand on se tient à la frontière d'Édom. Qu'est-ce que ça a à voir? Pourquoi c'est pas un paragraphe pour soi? La demande à Aaron méritait un paragraphe pour soi, non? Les Bnei Israël, d'une certaine manière, ils vont entrer en contact avec Esav, qui est un tordu. Et à ce moment-là, ils perdent justement le tzaddik Aaron. Tout ce que les Bnei Israël voulaient, c'était de traverser le pays d'Édom. Ils n'avaient pas l'intention de s'établir là-bas. Mais du coup, ce Chazal qui dit que parce que vous allez d'une certaine manière entrer en contact de presque dire, vous alliez, vous allez devenir allié d'Ésaü. Vous allez traverser son pays, une forme d'alliance. Ce que Hachem dit, et les Israélites n'étaient pas du tout en train de demander une alliance avec Édom, en lui demandant un droit de passage. Non, on passe, donc c'est pas comme ça qu'on fait une alliance. Hachem appelle ça une alliance. C'est-à-dire qu'en vérité, on n'est pas toujours conscient du danger que ça représente de vivre parmi les goyim. On a tellement l'habitude d'être en galoute qu'on ne réalise même pas du tout l'influence que les peuples parmi lesquels nous vivons ont sur nous. Il y a un mimétisme des actions, on copie leur façon de penser, on absorbe leur culture. Du seul fait qu'on parle la langue de ces pays, ça introduit des influences. Ben, le français est une langue chrétienne, donc c'est évident qu'il y a une influence chrétienne dans la façon, dans la langue que nous utilisons. Eh bien, Israël donne la permission, demande la permission de traverser un pays étranger. L'étranger est tellement grand que quand tu demandes une chose pareille, on perd à Aaron. Comme si la perte d'Aaron, elle était liée à vous êtes en train de faire une alliance, alors hein, vous enlève le tzaddik. Et le problème, c'est qu'on va vivre en galoute aussi jusqu'à la venue du Mashiach. Donc, il faut savoir l'influence de ces pays, enfin, des endroits, des pays dans lesquels nous vivons. Il faut pas se tromper.
Alors, il y a effectivement une influence, mais d'un côté, il y a aussi l'essor de la Torah en Galoute qui était
Oui, alors ce
clair.
qui est extraordinaire, c'est la Hashgaha qui nous a permis de produire énormément de choses en galoute.
Le Talmud Bavli, il est plus riche que le Talmud de Yerushalmi.
Oui, mais c'est une autre. J'ai pensé par hasard que quelqu'un parlait de ça devant moi et. Quand les Bnei Israël ont construit le Mizbéach du premier Beth Amikdash, il avait 28 amot sur 28 amot. Et quand on a construit le Mizbéach, deuxième Beth Amikdash, il avait 32 sur 32. Bon, on explique pourquoi c'était possible, comment ça se fait qu'on avait le droit de faire plus grand, etc. Mais juste, les chiffres sont significatifs. 28, c'est Koach. Et 32, c'est le lève. C'est-à-dire, le premier Beth Amikdash est construit sur la force du Israël. Son fort. On les Israël qui construit le deuxième. Ils le font parce que les Perses leur ont permis de le faire. Donc, la force, il n'y en a pas, c'est le cœur. J'ai pensé, j'ai entendu ces deux chiffres. Bon, c'est sûr que 28 et 32, ça fait obligatoirement tilt, mais quand même. Juste en passant.
Par rapport à l'influence des goyim en Galoute, il y a une influence qui n'en fait un peu négatif, ça, sur
Bah,
l'état
c'est l'influence de l'Élohim. Oui, donc ils nous ont aussi oui, l'influence des Goïms, nous qui vivons en terre chrétienne, de cette manière. Qu'est-ce qu'il y a, tu dis, on les a perdus ou quoi? Qui s'est passé?
livres là, les livres ont touché sur les.
Ah. Ah, d'accord. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Alors ça? Voilà. Désolé, j'ai fait une fausse manœuvre. Donc, juste après cela, les Israéliens vont être attaqués par les Cananéens. Donc, au chapitre 21, au début, Vaishma Knaani Melech Arad, Yoshev à Negev, qui va à Israël, etc. Vaïlachem bi Israël. Il a fait la guerre. Le Cananéen a entendu. Ouais, il a vu. L'Israël était là et il a fait la guerre contre Israël. Peu après la disparition d'Aaron, donc. La Torah nous dit, le Cananéen, le roi d'Arad, qui habitait au sud, il a entendu que les Bnei Israël venaient et il a fait la guerre contre Israël. Rashi dit, en vérité, ces attaquants, c'était en réalité les Amalekites. Ils vivaient au sud, dans la portion du sud du pays de Canaan. Et la Torah les appelle des Cananéens parce qu'ils se sont déguisés en Cananéens. Pourquoi? Parce que ils savaient la puissance de la prière. Et donc, ils se sont dit, si les Bnei Israël prient Hachem, délivre-nous des Cananéens, ben, nous, on n'est pas des Grecs Cananéens, donc la prière, elle ne va pas être efficace. Donc, on a une chance de passer. Et si on vient en tant qu'Amalek, ils vont prier Hachem, délivre-nous d'Amalek, et Hachem va les aider, et on n'y arrivera pas. Donc, ils ont dit, on va se faire passer pour des Cananéens, ils vont prier qu'on les délivre des Cananéens, et donc, nous, on va, malgré tout, il ne va rien nous arriver, on va pouvoir les attaquer. On voit ici que doit être précis sur le sujet de sa prière. On raconte que on a demandé une fois à Rabbi Akiva Eiger. Bon, Rabbi Akiva Eiger, c'est pas une star, c'est une superstar, ouais. On lui a demandé de prier pour quelqu'un qui était malade. Et après la prière, il a envoyé un message en disant, on m'a pas répondu. Donc, ça vaudrait la peine de vérifier s'il n'y a pas une erreur dans le nom qu'on m'a donné. Effectivement, on ne lui avait pas donné le bon nom. Évidemment, si on ne donne pas le bon nom, on ne peut pas prier. Donc, il faut apprécier que même dans nos prières, quand on ne nous répond pas, il y a des possibilités de ne pas nous répondre, pour nous indiquer que on n'a pas dit le bon nom. On va pas demander vraiment ce qui peut être, ce qui peut être fait en réalité. C'est-à-dire qu'en vérité, Hachem est le seul qui peut nous aider. Il fait que d'une certaine manière, on va pouvoir obtenir ce qu'on va demander. Mais il faut s'adresser à Hachem, vraiment à Hachem, et donner les éléments. Ce n'est pas que Hachem a besoin qu'il ne pourrait pas le savoir, mais c'est ça le. C'est ça la prière. La prière, c'est une démarche des hommes. Et donc, il faut faire une démarche précise, en fait. Du coup, on peut se demander, est-ce que, de quel droit est-ce qu'on peut prier pour, on prie comme on prie pour la sagesse, pour la santé, pour la parnassa, pour quoi que ce soit, toutes les choses qu'on demande. La chaîne. De quel droit est-ce qu'on prie? Pourquoi on peut prier? Parce que la prière, c'est reconnaître que les choses viennent d'Hachem. C'est parce que quand on prie Hachem, on reconnaît que les choses viennent d'Hachem, qu'on peut prier. On a le droit de prier. Parce que dans la prière, même si tu ne le dis pas explicitement, pardon, c'est bien ce que tu fais. Quand tu t'adresses à Hachem, tu lui demandes, donc tu reconnais que les choses dépendent de lui. Sinon, tu ne vas pas demander à ta bicyclette de, je sais pas, de t'amener au bout du monde. C'est-à-dire qu'en réalité, la prière, elle fortifie notre émouna, notre confiance en Hachem. Parce que le fait que je puisse prier, et même si la réponse, elle n'est pas toujours ce que j'ai envie, mais voilà, j'ai une possibilité de prier, c'est-à-dire, il m'écoute, il y a une écoute, en fait. Je réalise que le seul qui peut nous écouter, c'est Hachem. Dans le Parchat de Balak, il est marqué que Vayachet El Hamidbar Panav, 24, premier passage. Après que Bilam ait essayé de maudire Israël et que ça n'a pas marché, il a mis au point un nouveau plan. Il s'est tourné du côté du désert. Rashi cite le Targoum. Il nous explique que l'intention de Bilam, c'était de mentionner les transgressions d'Israël. C'est-à-dire, il veut que Hachem se rappelle les transgressions d'Israël. Là, ça sera, il aura ici arrangé la situation pour pouvoir maudire. Quoi. Rappelle les fautes, maudire l'Israël. Il y a une idée analogue quand la Torah discute les lois de la Sota. La Torah, elle dit que la Sota, hein, elle amène, en fait c'est son mari qui va amener, mais pour elle, elle amène une offrande, Mincha, qui est appelée Mazkeret Avon. C'est-à-dire quelque chose qui rappelle la faute. Si elle est fautive, alors la faute est rappelée Et alors, à ce moment-là, les eaux qu'elle va absorber vont faire leur travail. Ça veut dire que rappeler une faute, c'est très dangereux, c'est très dangereux pour une autre raison aussi. Les grands maîtres ont dit quand quelqu'un dit que le vidou, il y a Yom Kippour, il ne devrait pas consacrer trop de temps à réfléchir aux différentes fautes qu'il a faites. Il mentionne et puis on passe à autre chose. Parce que si il se met à revivre ses transgressions, il peut, grâce à Shalom, même de façon subconsciente, se rappeler que éventuellement, il y a eu une certaine jouissance dans ces avérotes. Et donc, quelque part, c'est comme dans ce rappel de la faute à Kippour pour obtenir un kapara, et quelque chose en lui va se mettre à désirer retrouver cette situation jouissive. Il y a des opinions qui disent que, par exemple, dans chacune des tfilotes de Yom Kippour, on fait un vidouille. Vidouille, alchette. Mais quand le Shliar Tzibour, il répète le vidouille, etc., et la plupart des gens, ils redisent le vidouille avec lui. Le Gaon de Vilna, il dit, il faut pas parler, il faut pas. Fait partie de la tfila du Tzibour, mais nous, on n'a pas à répéter le vidouille. Je l'ai déjà dit quand j'ai fait ma prière personnelle. Il faut pas, cette idée-là, il ne faut pas répéter. Le Rambam dit, quand quelqu'un éventuellement, il répète son vidouille, il dit, c'est comme un chien qui viendrait lécher son vomi. C'est arrivé. Dans les assemblées de, par exemple, de gens, de personnes qui ont fait Touva, ou absolument sincère, etc. Mais quelqu'un a rappelé un peu les choses qu'ils avaient fait avant de faire Touva. Et on voit dans les yeux des gens que quelque part, ça remet des étoiles. Parce que, évidemment, quand ces choses-là aujourd'hui, on peut les regarder comme, ah ouais, faute, je l'ai faite, c'est gravos. Mais en même temps, quelque part, d'après ce qu'il dit ici, quelque part en nous, il y a comme s'il y a un film qui commence à se dérouler, qui nous ramènerait dans la situation de la faute, et qui, ouais, mais cette faute-là, ouais. Ah, c'était pas bien. Ouais, mais c'était quand même. Ça. La vraie tchouva sur une transgression, elle ne passe pas par une analyse détaillée de la faute. Plus on en parle, plus on est susceptible de répéter la faute. Pas obligatoirement, mais on a répété au moins. Quelque part, on s'identifie avec ce qu'on était quand on a fait la faute. Donc, alors bon, chacun fait l'habitude de faire, mais il y a beaucoup de marzorim dans lesquels, le livre de prière dans lequel c'est marqué, le vidouille trois fois même. Donc, ça répétait à l'occasion, on vidouille. Donc, même la Rizal avait dit qu'il ne faut pas le faire, il ne faut pas répéter. À la limite, il faut, bien sûr, il faut les dire, il faut dire le bidouille, il faut faire autrement. Mais il ne faut pas en faire un plat. Voilà, ça va être là.
Merci.